Cristina Peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, je crois que tu viens de descendre à cheval, mais est-ce que tu es encore en forme pour 25 minutes ?
Ah bah bien sûr, et puis en forme pour la route du sel prochainement, hein, puisqu'on est en train de la préparer là.
Alors, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui, le mot saure. Alors, je l'appelle S-A-U-R-E. Alors, la plupart des sports possèdent un vocabulaire particulier qui étonne le néophyte, vocabulaire qu'il convient plutôt de maîtriser si l'on veut éviter le flou des termes généraux. Et plutôt que de dire un cavalier en déséquilibre, je pense que Jean-Yves, tu me démentiras pas, tiens-toi au devant de ta selle et pousse tes fesses en avant, l'enseignant, pardon, préférera conseiller, prends le pommeau et engage ton assiette. C'est bref et c'est quand même plus précis.
Bah, il vaut mieux se tenir au pommeau que se tenir à la bouche du cheval, quand même.
Tout à fait. Alors souvent, l'acquisition du vocabulaire spécifique attaché au cheval et à l'équitation reste la hantise des cavaliers qui préparent la partie théorique des examens, les fameux galops. Alors chacun, toi tu en fais passer pas mal, Jean-Yves. Alors chacun recourt alors à un ensemble de moyens mnémotechniques, dont l'inusable bambisgale, dont tu vas nous rappeler, Jean-Yves, la signification. Ça veut dire quoi, bambisgale ?
Ben avec ces mots, on peut connaître toutes les couleurs des chevaux dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Bambisgale, d'abord les robes simples, blanc, alezan, noir, café au lait. Ensuite les robes composées, où le crin est noir, bis, baie, isabelle, souris. Après il y a gale, gris, aubert, louvet. Et enfin, rouen. Et les chevaux pis indiens, pis alezan, pis noir, pis gris.
Tous les pis.
Voilà ce que veut dire bambisgale RP.
Voilà, bambisgale RP. Alors curieusement aujourd'hui, ben Jean-Yves, l'adjectif saure qui définit la couleur brun-jaune de certaines robes de chevaux n'apparaît plus dans ton florilège.
Mais parce que c'est ancien ça.
Voilà, alors on l'a trouvé pourtant régulièrement dans les textes du Moyen-Âge, notamment dans la chanson de Roland, composée par un certain Turold en 1880, du reste trois siècles après la mort de Roland par les Basques à Roncevaux.
Ah ben j'apprends quelque chose, je savais pas que Roland avait une chanson propre.
Ah si, c'est la chanson de Roland.
J'aimerais bien l'entendre.
Alors, quand on appelle une chanson au Moyen-Âge, en fait, c'est un texte, c'est un ensemble de poèmes. Hein, ça ne se chante pas forcément, si tu veux. Voilà.
Un peu comme le rap, alors.
C'est un peu...
un peu comme les rappeurs, alors.
Ah ben, après
ils palabrent plus que ceux qui chantent.
Oui, mais il y a de la musique derrière.
Oui.
Alors, sort dériverait dans une des anciennes langues germaniques qui s'appelle le francique, et il désignait alors la couleur donc brun-jaune des feuilles sèches, adjectif que l'on retrouve dans l'ancien néerlandais sort, toujours dans ce sens de sec, et qui s'applique encore actuellement aux viandes séchées, à la fumée de bois, en particulier celle des poissons, comme le fameux hareng sort.
Ah oui, le hareng sort.
Alors, l'italien utilise l'adjectif saora pour parler d'un cheval alezan. En italien, on ne dit pas alezan ou alsan comme alassane comme en espagnol, mais on dit sort. Et pour les Espagnols, Soro désigne un jeune faucon de taille adulte qui n'a pas encore fait sa première mue et qui conserve donc sa couleur roux fauve d'origine. Et alors Jean-Yves, j'ai bien dit Soro et non Zorro.
Zorro c'était le renard, Zorro.
Voilà, Zorro c'est le renard, et même si c'est un animal qui a un pelage roux, rouquin, n'est-ce pas, l'étymologie est complètement différente. Et donc, tu as bien raison Jean-Yves de pas prendre une fausse étymologie, un peu tirée par la queue d'un cheval, fut-il de robe saure.
Zorro, le célèbre cavalier qui protège la loi.
Jean-Yves ne rate pas un des épisodes de Zorro. Et il a été très déstabilisé il y a quelques semaines quand le Zorro est passé du dimanche au vendredi à la télé.
Alors, ah non, au samedi.
Du dimanche au samedi. Voilà. Et alors, pour en terminer avec la couleur brun-jaune, on sait que D'Artagnan, dans le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, fit son entrée à Paris sur un modeste bidet à la robe bouton d'or, hein, ouais. N'est-ce pas ? Ce qui, on en conviendra, plus poétique et plus pimpant qu'arriver à Paname sur un ronsin couronneur de Aronsor.
Aronsor, ouais.
Il vaut mieux bouton d'or.
Oui, c'est plus... plus spectaculaire, bouton d'or en plus.
Alors on va continuer sur les nomades. Et les nomades, donc ce mot qui vient du grec nomas, donc au pluriel ça fait nomados, et qui désigne des tribus de pasteurs vagabonds qui se déplacent d'un pâturage à l'autre à la suite de leurs troupeaux. Cette définition s'applique parfaitement aux peuples des steppes d'Asie, tels que les Mongols, les Turcs ou encore les Huns. Le monde des steppes, un territoire deux fois plus étendu que celui des États-Unis d'Amérique. Plus de 10 000 kilomètres depuis la Grande Muraille de Chine, aux confins de la Mandchourie, jusqu'aux frontières danubiennes et rhénanes, que les Romains défendaient, y compris la Hongrie, par un immense réseau de fortins et de remparts, les Limes. On avait vu ça. Et c'est dans cet espace infini qu'apparaît, environ 1000 ans avant notre ère, des peuples singuliers, des prédateurs, qui frapperont de stupeur et souvent de terreur, il faut bien le dire, les peuples sédentaires d'Orient et d'Occident. Ça, vraiment, ils ont eu la pétition. Et puis, de l'autre côté, d'une certaine façon, les peuples sédentaires. Ça, c'est un tout autre monde. Et là aussi, l'étymologie nous éclaire. Le mot sédentaire vient du latin sedentarius et désigne celui qui travaille assis. Ça veut dire travailler assis. C'est un monde de producteurs, on n'est plus sur des prédateurs, donc un monde de producteurs, fondateurs d'États administrés par des fonctionnaires qui font appliquer des lois écrites. Donc on est dans un système très différent. Des bâtisseurs de villes avec leurs artisans, leurs commerçants, leurs paysans, etc., qui créent des richesses en transformant les matières premières en objets manufacturés et donc en les vendant. Des intellectuels enfin, scientifiques ou philosophes, qui par leurs recherches et leurs enseignements alimentent un processus historique dynamique, gage de pérennité. Donc d'un côté un monde nomade, fidèle à des codes assez immuables, de l'autre un monde sédentaire qui cherche à concevoir, à façonner son avenir, en un mot à construire son histoire. C'est pour ça qu'avant les ethnologues ou les anthropologues parlaient pour les nomades de peuples sans histoire. Or ils ont une histoire, voilà. Mais disons qu'ils ont assez peu de prise sur leur histoire.
Et surtout très dépendant. Pendant des chevaux, alors.
Alors, pas tous, hein, je veux dire, mais enfin, effectivement, pour les gens des steppes, voilà. Alors, les peuples des steppes sont étroitement dépendants de leurs troupeaux de chevaux, tu le dis très bien, Jean-Yves, de moutons, parfois de bovins, de chèvres ou encore de chameaux. Ouais. L'herbe, mais également l'eau, indispensable pour nourrir et abreuver ces différents cheptels, oblige les nomades à une transhumance biannuelle. Selon les saisons, ces transhumances s'effectuent du nord vers le sud ou du sud vers le nord, hein, ils font l'aller-retour en contournant les grands déserts comme celui de Gobi et les massifs montagneux de l'Altaï.
Toujours à la recherche d'eau, d'herbe et de pâturage.
Voilà. Alors pour ces mêmes raisons, les parcours de transhumance sont stoppés au sud par les monts du Pamir et les contreforts du plateau iranien. Là, ils ne vont pas plus loin parce qu'effectivement, il n'y a rien à bouffer pour le bétail. Ouais. Alors plus au nord, la steppe herbeuse se prolonge cependant par un étroit goulet qui contourne les monts de l'Oural, mais là, il faut vraiment s'y faufiler, et pour déboucher sur la plaine hongroise, la fameuse Pusta.
Pusta.
On en parle, les Cosaques de la Pusta, bien sûr. Alors c'est du reste dans cette vaste plaine que dans un premier temps les migrations des Huns s'arrêtera, ils n'iront pas plus loin. En revanche, le passage par le nord de la Sibérie reste ouvert. Et ça c'est intéressant parce que c'est un espace immense, quasiment pas peuplé, composé d'une forêt claire qui se transforme insensiblement vers le nord en une forêt de conifères et qu'on appelle la taïga. Alors un endroit idéal pour les nomades qui peuvent d'une part s'y réfugier pour fuir la contrainte, hein, quand ça marque mal ils foutent le camp au milieu des bouleaux, donc se échapper au pouvoir politique russe et chinois, chasser et trouver le bois indispensable pour fabriquer les objets du quotidien, ça ils en ont besoin, comme les selles, les armes ou encore l'armature des yourtes ou les hampes des flèches bien évidemment, ou les arcs, enfin bon,
oui,
l'ensemble
sûr,
des
ouais.
armes. Alors pour les nomades, la notion de frontière entre États est inconcevable, ça c'est un truc qui piche pas. Pour eux, les seules frontières qu'ils conçoivent sont celles formées par des espaces naturels comme les massifs montagneux, les déserts ou encore les grands fleuves.
La terre appartenait à tous.
Voilà. Et bien entendu, là où l'herbe est absente, il s'arrête évidemment quand il n'y a pas d'herbe. Alors malgré tout, le nomade est un opportuniste à l'affût de la moindre possibilité d'étendre ses parcours migratoires. C'est là où il est très fort et c'est là où il a un petit peu étonné les sédentaires. Et cela a été en particulier le cas à trois reprises durant l'hiver 406 quand le Rhin a gelé, puis en 465 et 469 pour le Danube. Et donc chaque fois, les Vandales, les Huns et les Goths en profitèrent pour passer ce qui avait été des obstacles naturels infranchissables pour eux et sur lequel s'appuyaient en plus les armées romaines et il passe et il s'aventure sur les territoires d'Europe occidentale. Voilà. Alors, loin d'être un handicap, le psa climatique a été un véritable allié des tribus nomades d'Asie. Soumis aux rigueurs des étés pendant lesquels les températures peuvent atteindre plus de 50 degrés et descendre en hiver à moins 50, hein, ça...
Ouh là là.
Ouais, c'est fort, hein, 100 degrés de différence, c'est énorme. Dans les tourbillons de vent glacé, il faut imaginer des toundras, enfin, il fait pas chaud. Ces peuples y ont puisé une résistance physique hors du commun et une grande assaise morale aussi. Ce sont des gens qui sont durs à la douleur, vraiment durs à la douleur. Avec aussi pour conséquence l'impossibilité technique de bâtir des villes. On comprend que la yourte de feutre est, au fond, était la seule habitation adaptée à d'aussi rudes climats, parce que d'abord elle est chaude en hiver, elle protège aussi du soleil en été, il faut pas croire, hein, donc elle est thermiquement elle est bon, et puis surtout elle est facile à transporter.
Voilà. C'est léger, oui.
C'est léger. Mais on va s'accorder, Jean-Yves, maintenant une pause musicale avec Canned Heat, Going Up the Country.
Gotta get going, well I can't stay along now, cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well I've got to roam, baby find me a brand new home.
Malgré une uniformité de paysage qui pourrait sembler monotone, la grande steppe d'Asie recèle en fait trois écosystèmes animaux et végétaux d'une grande variété entre eux. Les espèces végétales varient du nord au sud. Alors, au nord, la taïga, avec ses pelouses d'herbes courtes qui abondent pendant la courte durée du printemps, simplement. L'eau y est abondante, en revanche. Mais le problème, c'est que c'est une région marécageuse, infestée de moustiques, insalubre pour les hommes et les troupeaux, un peu la Camargue avant la domestication.
Les chevaux craignaient beaucoup les moustiques. Hein.
Voilà, tout à fait. Et les hommes aussi.
Les hommes aussi.
Voilà, voilà. Et puis, ensuite vient la steppe d'herbe longue avec ses printemps et ses automnes pluvieux. Donc là, elle est un petit peu plus adaptée. En revanche, l'été y est caniculaire et l'hiver glacial la recouvre de neige. Donc là aussi, l'hiver est très rude. Pour les nomades, pourtant, elle constitue le meilleur des pâturages. Et enfin, la zone proche des déserts, à la végétation clairsemée et rase, mais où les troupeaux peuvent brouter les feuilles des buissons et des arbres nains, et s'abreuver pendant une courte période grâce aux réserves d'eau contenues dans les bulbes de plusieurs variétés de plantes à fleurs.
Ah oui.
Voilà. Alors, ce sont ces trois écosystèmes qui imposent aux pasteurs un nomadisme rythmé par les climats et les saisons, bien évidemment. Nomadisme, pour ces mêmes raisons, qui est celui aussi d'une partie de la faune sauvage et dont les hommes ont dû s'inspirer, en fait. Les chevaux, bien sûr, comme les tarpans, les émiones également, un petit équité, Jean-Yves, tu sais, pas très grand, qui tient à la fois de l'âne et du cheval.
Oui, tout à fait.
Hein, voilà. Mais également d'autres herbivores, comme les cerfs, les antilopes saïga, tu sais, avec leur espèce de grand nez, là, pour éviter de trop respirer la poussière, et d'immenses troupeaux de bisons aussi, aujourd'hui disparus disparus d'Asie et dont les derniers représentants, en fait, sauvages, vivent encore dans les grandes forêts de Pologne. On en trouve encore à l'état sauvage. Et de temps en temps, les parcs zoologiques en achètent, voilà, pour les avoir. Enfin, le calendrier de ces transhumances est donné par les migrations des oiseaux qui, eux aussi, se déplacent du nord au sud de la steppe pour s'alimenter. Donc, pas mal de choses pour voir quand il faut partir ou quand il faut, où il faut aller. En revanche, deux espèces restent quasiment sédentaires. Le loup et l'aigle royal, deux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, leur mode de subsistance, c'est un peu pour les nomades d'Asie centrale et orientale. L'exemple à suivre. Deux animaux en perpétuelle chasse. Le premier s'en prenant aux animaux faibles, blessés ou malades. Donc, le loup. Et le second, l'aigle royal, qui avec, alors c'est extraordinaire, avec ses 2,60 m d'envergure, fond sur sa proie à près de 300 km/h.
Utilisé pour la chasse encore couramment.
Proie qu'il est capable de récupérer, de repérer à plus de 50 km de distance. Ouais. C'est extraordinaire. Deux grands prédateurs qui tiennent une place prépondérante du reste dans le panthéon nomade et qui sont souvent représentés sur les bijoux. On le voit souvent sur les
l'aigle
bijoux.
L'aigle est un animal sacré là-bas.
Alors, le loup bleu qui symbolise le ciel. Quant à l'aigle, il est toujours utilisé aujourd'hui en Mongolie pour la chasse. Ouais. Ces techniques de chasse à l'aide d'un oiseau de proie, aigle ou faucon, mis au point par les nomades et surtout pratiquées par les femmes, ça on verra ça dans la prochaine émission, seront vite adoptées par les Romains. Voilà. Et elles deviendront donc ces méthodes de chasse pour les aristocraties arabes et européennes, la chasse noble par excellence. Et du reste, ça sera au Moyen-Âge la seule chasse que les femmes pourront pratiquer.
Voilà. Les ecclésiastiques aussi pourront pratiquer.
Oui, mais les femmes, je dis bien hommes-femmes, voilà, c'est cela. L'aigle sera le symbole de Rome, de sa puissance militaire que les légions victorieuses recevaient en récompense, hein, les fameuses aigles romaines. Hein, aigle, en latin, c'est féminin, donc c'est pour ça qu'on dit des aigles romaines et pas romains. Il sera une des figures héraldiques les plus utilisées dans l'armorial de l'Europe chrétienne, à telle enseigne que l'empereur Napoléon le substituera aux lys de la royauté. Hein, il lui mettra un aigle. Et enfin, il figure toujours aujourd'hui dans les blasons de bon nombre de pays en Europe et en Amérique. Hein. Voilà, l'Allemagne a un aigle, l'Autriche a un aigle, etc., 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 l'Espagne aussi. La semaine prochaine, nous découvrirons que les sociétés nomades d'Asie étaient en fait des sociétés matriarcales, dans lesquelles l'essentiel du pouvoir était aux mains des femmes, à l'inverse évidemment de l'ensemble des cultures grecques et romaines construites sur un modèle patriarcal assez rigoureux. Alors, à lire et à, pour en savoir plus, donc, Atlas de Rome et des barbares de Hervé Englebert, professeur d'histoire romaine à l'université de Nanterre, et c'est aux éditions Autrement. Attila, la violence nomade de Michel Rouge, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, que vous trouverez aux éditions Fayard. Alors, Jean-Yves, tu pourrais nous dire en deux mots, quand on parle de la cession d'encolure pour un cheval, qu'est-ce que ça veut dire et que doit faire le cavalier ?
Cession d'encolure, ben, c'est plutôt cession de la bouche aussi, parce que l'encolure doit pouvoir prendre les trois attitudes. Attitude basse pour les allures rapides, quand le cheval se déplace rapidement. Ensuite, attitude moyenne dans les allures moyennes et attitude haute pour les pas rassemblés, pour les allures rassemblées. Donc, il peut prendre les trois attitudes. Alors, cession d'encolure, c'est de laisser descendre son encolure le plus bas possible. Voilà, le cheval s'étend, il s'étire, il souffle, il est libre. Et l'idéal, c'est de pouvoir l'avoir loin dans la main.
Loin dans la main. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais quand même beaucoup plus jeune, toutes les reprises dans une école d'équitation se terminaient toujours par une cession d'encolure.
Et ça continue actuellement. Quand on a fait une reprise de dressage, on sort du carré de dressage sur des rênes longues, mais sur une descente de main, sur un cheval qui descend en bas.
Donc, ce qui permet au cheval...
Et qui tend ses rênes et qui descend en bas.
Voilà. Donc, voilà.
Qui permet au cheval de s'ouvrir.
Donc, il faut vraiment que les rênes restent tendues. C'est pas un abandon des rênes.
Ah non, c'est pas un abandon des rênes, non.
Voilà, des rênes. Voilà,
le cheval doit garder le contact. C'est le contact, ça, c'est voilà. Le cordon ombilical.
Donc, en réalité, techniquement, on cède petit à petit, le cheval accompagne son mort.
Le cheval accompagne son mort, il court après son mort, il recherche le contact du mort, et la transmission qui se fait par des pressions des doigts, et par le tact de la main, et par l'intelligence de la main.
D'accord.
Le cheval va être sur la main, dans la main ensuite, donner sa bouche, dire oui à son partenaire, et puis voilà, c'est comme ça.
D'accord. Alors, Jean-Yves, je crois que tu as un texte à nous lire, là.
Ah, ça, c'est pour l'éducation en destre, avec un cheval à côté. Alors, durant l'éducation confiante, la grâce vient aux chevaux, parfois dans le plus grand des naturels. Alors, l'élève cheval choisit lui-même d'imiter dans ses airs et plus simplement d'encourager, enfin connaître cette harmonie des allures et du geste. Ici, le cheval fait preuve d'esprit, et le voilà qui vient au-devant de nos désirs. Ainsi peut se transmettre le goût des belles choses d'un cheval à un autre.
D'un cheval à un autre, le goût des belles choses d'un cheval à un autre, c'est très très joli. Alors dans le dicton de la semaine, Jean-Yves, alors vraiment en deux mots, j'ai trouvé ce dicton, donner un jeune cheval à un jeune cavalier, c'est multiplier dangereusement deux inexpériences.
Ben oui, il vaut mieux faire le contraire. Il vaut mieux donner un jeune cheval à un vieux cavalier qui a une expérience et réciproque. Un cheval qui a de l'expérience, un jeune cavalier, c'est un tuteur finalement. On le fait d'ailleurs pour l'éducation en destre, puisqu'on met à côté un cheval expérimenté à côté d'un jeune cheval. On lui fait voir les passages difficiles, les endroits dangereux. On lui fait voir plein de choses et voilà, il, par imitation, il imite. Le deuxième cheval imite le premier.
Voilà. Alors, grosso modo, est-ce que tu donnerais le conseil à quelqu'un qui est vraiment pas encore très bien, qui possède pas, enfin qui est pas très très fort en équitation, confirmé d'acheter un jeune poulain?
Ah non, pas du tout. Non, voilà. Je crois qu'il vaut mieux qu'il achète un cheval d'expérience, qui est connu, qui connaît, qui sait, et qui va lui montrer des choses et qui va le rassurer et qui va le l'initier.
Qui sera en quelque sorte le professeur qui, en fait, c'est le cheval sera le professeur qui éduquera le jeune cavalier.
Tout à fait, c'est le tuteur. On le fait pour l'attelage aussi également, mais toujours un cheval qui connaît à côté d'un jeune cheval qui ne connaît pas.
Voilà.
Donc qui se rassure mutuellement.
Donc le jeune cheval déjà est mis en confiance par le plus vieux et puis limite par mimétisme.
Ça se pratiquait autrefois, on le fait encore pour les vaches quand on transhume. Et on met les vaches qui connaissent en tête, et elles montrent le chemin aux jeunes et qui les suivent.
Voilà.
Les troupeaux de chevaux en liberté, c'est exactement pareil aussi.
Oui, généralement, ce sont des matriarches qui emmènent tout le monde. C'est un petit peu la même chose que les éléphants aussi. Voilà. C'est une vieille femelle qui connaît bien les choses et qui... Et
on continue encore dans les élevages de taureaux de combat, par exemple aussi, puisqu'on fait toujours précéder des taureaux castrés, des siméos.
Les siméos.
Qui mènent le troupeau et qui montrent la route aux autres, aux jeunes taureaux.
Aux novices, aux jeunes blancs-becs. Voilà. D'accord. C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un ami peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez, 107.9, et de CFM Villefranche-de-Rouergue, 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non. Droit et souris, ton cheval est un ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non. Sur la route du ciel, d'aigues mortes à Rodez, en passant par Salmiers.
Languedoc au Rouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyon, les Vézous, Saint-Liège, milieu du sel. Patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la